Dramatique accident de la route ce lundi à Châteauroux-les-Alpes.
Un mort et 5 blessés après un accident sur la route de Châteauroux. Un fourgon et 3 motos avec à bord des Italiens se sont percutés. L'un des motards est décédé. 3 autres ont été évacués des lieux en urgence absolue. Une enquête de gendarmerie est ouverte.
La commune d'Upex aux proies aux flammes.
52 pompiers au total ont été mobilisés dans la soirée pour un incendie dans un lieu fort heureusement inhabité. Le travail de forestage est poursuivi toute la nuit. Nous serons en direct avec le maire, Florent Martin.
Le fils d'Hubert Reeves rendra hommage demain au célèbre astrophysicien au Centre d'astronomie de Haute-Provence.
Soirée de conférences sur le thème de l'astronomie et de l'écologie, deux domaines qui sont intimement liés.
Deux vainqueurs copier-collés pour la 38e édition de l'Ambraman.
Le néerlandais Nickel Dorn et la chilienne Barbara Rivero seront dominés tous deux de la tête et des épaules. Le mythe, l'un des plus célèbres triathlons qui avait lieu hier sur les rives d'Embrun. Du côté du ciel.
Un soleil dominant, mais un petit peu d'instabilité pour cet après-midi. Temps bien ensoleillé pour ce matin et cet après-midi, les nuages traditionnels vont se former sur le relief. Ils pourront donner quelques averses et localement quelques coups de tonnerre. Les températures, elles amorcent enfin leur baisse, comprises entre 27 et 32 degrés pour cet après-midi. Dramatique accident de la route ce lundi à Châteauroux-les-Alpes.
Un fourgon avec à bord 3 bénévoles de l'Ambraman et 3 motos sont entrés en collision sur la Nationale 94 peu avant 18h. Bilan, 1 mort et 5 blessés. 6 motards italiens étaient impliqués. L'un d'entre eux est décédé. Son corps a été retrouvé en contrebas de l'axe routier. Il a été remonté par une équipe de la CRS Alpes. 3 autres étaient en urgence absolue. 2 ont été héliportés sur le centre hospitalier de Grenoble. Un autre pilote a été évacué par ambulance sur Briançon. Enfin, 2 dernières victimes ont été transportées, elles aussi, sur le centre hospitalier des Escartons en urgence relative. Et quant aux passagers du fourgon, ils étaient indemnes. Au total, ce sont une 30aine de pompiers qui sont intervenus sur place. La nationale a été coupée à la circulation le temps de l'intervention. Une enquête de gendarmerie est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Selon les premiers éléments, le fourgon se serait déporté sur la gauche. Toujours sur les routes, mais cette fois dans les Alpes d'Haute-Provence, 2 motos se sont percutées frontalement hier, peu avant 13h, sur la départementale 952 à Rougon. 3 personnes ont été blessées, 2 hommes de 59 et 29 ans et une femme de 55 ans. 2 des victimes ont été transportées sur Digne-les-Bains par l'hélicoptère Chouka 04, la dernière par ambulance. La circulation a là aussi été perturbée.
Un nouvel incendie dans les Hautes-Alpes a mobilisé hier soir les pompiers du département.
Ils étaient 52 au total ce lundi vers 19h, avoir été appelé en renfort pour intervenir au lieu dit La Palue à Upex. 1 hectare 5 sont partis en fumée dans une zone inhabitée. Le SDIS des Hautes-Alpes a pu compter sur le soutien de son homologue des Alpes d'Haute-Provence qui a dépêché sur place 2 camions citernes feu de forêt. Un hélicoptère bombardier d'eau de la sécurité civile a également effectué 5 largages. On rejoint en direct Florent Martin, le maire d'Upex. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le travail de forestage a été mené toute la nuit, monsieur le maire.
Tout à fait.
Quelle est la situation ce matin?
Tout est maîtrisé. Les pompiers surveillent les éventuelles reprises, dirait-on.
Quelle est la situation au niveau de la sécheresse du côté du PEC et plus largement dans votre communauté de communes?
C'est sec, mais on a eu la chance d'avoir un petit peu de pluie la veille. Enfin, d'ailleurs, la chance et la bonne chance, puisque c'est sûrement l'orage qui a provoqué ce feu, mais voilà, ça nous a permis d'éviter des catastrophes.
Une catastrophe. Aujourd'hui, il y a des images qui restent en tête, les images de juillet, du lac de Serre-Ponçon, ou même des gorges du Verdon, avec un niveau d'eau extrêmement faible. Elles sont impressionnantes, elles témoignent de la baisse des réserves hydrauliques. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vous, en tant que maire, sur l'avenir de l'eau dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud et ces différents conflits d'usage qui pourraient arriver, puisqu'on le rappelle, l'eau, c'est une réserve notamment pour les agriculteurs, pour la consommation et puis bien sûr aussi c'est une manne touristique.
Eh bien oui, on est très inquiet on souhaiterait vraiment sécuriser nos ressources, c'est la situation est compliquée. On essaye de tempérer aussi avec nos agriculteurs sur lesquels on doit compter parce que c'est eux qui produisent ce qu'on va manger après. Donc c'est la situation est vraiment complexe et notamment dans nos petites communes où il faut... nous, on n'a pas le problème touristique, mais on a le problème de conflit d'usage et de... Donc c'est... Voilà. Mmh. On a...
Est-ce qu'il faut durcir, selon vous, peut-être des sanctions? Est-ce qu'il faut mettre en place des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas les restrictions d'eau?
Non, c'est compliqué. Il faut faire de la pédagogie. On peut pas. Enfin, c'est difficile de vraiment trop réprimer quelqu'un qui peut perdre tout son travail, toute sa récolte. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en difficulté. Donc, c'est complexe. En même titre que c'est complexe de laisser des sociétés, des entreprises touristiques ne pas pouvoir travailler sur ses poissons. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut qu'on soit tous unis et qu'on avance.
Vous menez, vous, ce travail de pédagogie auprès de votre population?
Oui, nous, on explique. Nous, c'est le rapport avec les agriculteurs, en fait. On n'a pas le rapport, encore une fois, touristique. Mais oui, on essaye de leur expliquer que s'ils sont tous raisonnables, on va y arriver. Mais c'est pas simple. Il faut que tout le monde soit raisonnable et sur le long terme. Il faut qu'on investisse dans des nouveaux systèmes d'irrigation. Il faut que nous, les collectivités, on investisse dans nos réseaux d'eau. Et j'espère d'ailleurs que l'État va finir par nous entendre et nous laisser notre compétence, parce qu'on est quand même les premiers concernés. Voilà.
C'est cette fameuse compétence GEMAPI dont vous parlez aujourd'hui.
La compétence, le transfert de la compétence de la gestion de l'eau potable à l'intercommunalité qui est en débat depuis fort longtemps, qui est une obligation pour 2026 et qui est pour moi une catastrophe et qui empêche qu'on gère, parce qu'en fait on gère au niveau local, c'est là qu'on gère le mieux sur nos petites communes.
Pourquoi les maires doivent garder cette compétence? On entend beaucoup parler, hein, la compétence eau et assainissement doit rester auprès des mairies et non pas passer aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération. Pourquoi, selon vous, il faut que ça reste à l'échelon communal?
Parce qu'on connaît nos réseaux, on a la connaissance et puis on peut mieux gérer l'investissement. C'est vraiment, pour nous, c'est primordial. Et pour le service à la population aussi, puisque on connaît pas la réactivité au niveau des intercommunalités, ou alors après, ça oblige à une sous-traitance sur des grands groupes et ça imposerait des frais à nos administrés supplémentaires et ça nous garantirait pas forcément un service plus adapté. Donc, vu les enjeux, on milite fortement pour que cette compétence qui,
passer d'une gestion communale à intercommunale, c'est sûr, selon vous, ça fera augmenter les tarifs?
Oui.
On arrive aujourd'hui à estimer l'augmentation?
Non, mais quand on voit ce qui se pratique ailleurs, on peut facilement imaginer que ça peut doubler sur les communes. Le seuil minimum aujourd'hui, c'est 1 € le mètre cube, hors taxe, en général, dans nos petites communes, et ça permet l'investissement. Là, ça sera, je pense, doublé.
Et si on vous rétorque, demain, avec les intercommunalités, il y aura forcément plus d'argent pour gérer les réseaux d'eau? Pour investir?
Ça, c'est pas forcément sûr, parce que c'est principalement des financements, et les financements arrivent de l'agence de l'eau et du département. Donc, il y aura une plus grosse masse à investir, il y aura plus d'inertie, puisque ça sera plus gros, mais il n'y aura pas forcément plus d'argent.
Vous en avez parlé avec les députés des Hautes-Alpes, avec le sénateur Jean-Michel Arnaud?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent?
Ils se battent pour qu'on garde notre compétence dans nos territoires. Tout au moins Jean-Michel Arnaud.
Ah, et pour les députés, pas forcément?
Apparemment, oui. C'est une promesse de campagne maintenant. On va voir ce qui se passe.
Donc le message est lancé auprès de Pascal Boyer et de Joël Giraud. Merci beaucoup Florent Martin, maire du PECS, d'avoir été avec nous ce matin pour agir notamment sur cet incendie qui est intervenu hier sur le lieu dit La Palue à UPEX. Merci beaucoup. Bien. Dans l'actualité, dans les Alpes de Provence, un parapentiste a été retrouvé mort ce lundi. Son corps a été découvert peu avant 18h à Montclar au lieu dit Les Adrets. L'homme avait 70 ans. Les circonstances de son décès sont pour l'heure indéterminées. Une enquête est ouverte.
On poursuit l'actualité avec l'astronomie et l'écologie, deux domaines bien différents et pourtant intimement liés.
Et on en est persuadé au sein du Centre d'astronomie de Haute-Provence, puisqu'on propose demain une conférence sur ce thème, astronomie et écologie, des étoiles et des hommes. Et c'est l'astrophysicien engagé Hubert Reeves qui sera à l'honneur au travers d'une soirée hommage. Il a souvent collaboré et travaille encore avec l'Observatoire Basalpin. Et pour ce rendez-vous, c'est son fils Benoît Reeves, médiateur scientifique en astronomie et environnement, qui sera présent. Écoutez Fabien Marquet, le directeur du Centre d'astronomie de Haute-Provence.
C'est un hommage à la carrière d'Hubert Reeves, qu'on connaît très bien, qui est venu plusieurs fois sur le site du Centre d'astronomie, qui aujourd'hui est un petit peu âgé, donc il a quelques difficultés à venir jusqu'à chez nous. Donc On travaille maintenant un peu plus avec Benoît, son fils, qui commence à prendre un petit peu le relais, hein, sur les mêmes thématiques, sur le même discours. Les deux sujets sont forcément liés puisqu'il faut qu'on continue à protéger notre planète si on veut continuer à pouvoir observer les étoiles, hein. Donc, ça fait quelques années maintenant qu'on lit ces deux sujets qui sont indissociables aujourd'hui. C'est que si on veut préserver cette vue que nous avons sur le fond étoilé, il faut impérativement protéger notre ciel nocturne. Alors on va échanger avec le public sur la thématique de la pollution lumineuse, entre autres, et puis de la pollution qui peut nous faire une barrière pour pouvoir continuer à observer ce ciel profond.
Et le rendez-vous est donné donc demain, 21h à Saint-Michel, l'Observatoire, au sein de l'Observatoire. Comptez 16€ pour les adultes, 12 pour les enfants de 6 à 16 ans.
Alpe 1 Sport. La 38e édition de l'Embrunman aura livré son verdict.
Et quel verdict chez les hommes! C'est le Néerlandais Nick Eldahan qui s'impose en bouclant le triathlon en 9h30. À 23 ans, il devient l'un des plus jeunes vainqueurs de l'épreuve et n'aura jamais été rattrapé par ses concurrents. Premier à être sorti de l'eau du plan d'eau d'Embrun. Meilleur temps vélo, meilleur chrono. Et c'est la première victoire d'envergure pour cet inconnu jusqu'alors du triathlon. L'Américain Kenneth Peterson grimpe sur la deuxième place du podium. Quant au vainqueur de l'édition 2015 de l'Embrunman, le Croate Andrei Vistica, c'est à nouveau une médaille de bronze comme l'an dernier. Et pour retrouver le premier français, il faut regarder à la cinquième place avec Félix Pouilly. Chez les femmes, c'est l'une des favorites qui s'adjuge la victoire, la chilienne Barbara Riveros. Des terres olympiques où elle a été sélectionnée à 4 reprises, elle s'est désormais reconvertie au triathlon. Reconversion largement réussie puisqu'elle a dominé cette édition, sortie de l'eau à moins d'une seconde de la première. Elle a ensuite signé le meilleur temps en vélo. Et au final, balai de 7 minutes, le record détenu en 2016 par Carrie Lester. Il faut tout de même noter la belle performance de nos Françaises qui signent la seconde et troisième place du podium avec respectivement Justine Mathieu et Jeanne Collonge.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.